Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Bonjour mon ami, merci de vous joindre à moi. J'ai commencé une petite étude dans le livre des Philippiens et nous en sommes maintenant au chapitre 3. Alors si vous avez une Bible ou un appareil avec une application biblique, prenez-le, vous pourrez suivre avec moi. Et alors que nous arrivons au milieu de ce chapitre, Paul écrit aux croyants de Philippe au sujet de certaines personnes qui étaient venues après son départ et qu'on appelait les judaïsants. Ils disaient, oui, Jésus est le Messie, il est le Sauveur, mais il n'est le Sauveur que d'Israël. Et si vous voulez être sauvé, vous devez devenir un prosélyte juif. Autrement dit, vous devez être circoncis, vous devez observer la loi de Moïse, et c'est seulement en faisant confiance à Jésus et en observant minutieusement la loi de Moïse et en étant circoncis que vous serez vraiment sauvé. Ils avaient pris le message du salut par la grâce au moyen de la foi. Et il l'avait, à vrai dire, complètement défiguré. Paul était en colère contre eux et il met les croyants en garde. Il leur dit, écoutez, ce n'est pas par les bonnes œuvres. Et si vous pensez que c'est par les bonnes œuvres, j'ai bien plus de raisons que quiconque de me vanter. Il a dit, j'étais irréprochable en ce qui concerne l'observation de la loi de Moïse. J'étais pharisien, l'ordre le plus strict, parmi les religieux juifs de notre nation. Et il a dit, je suis hébreu, né d'hébreu. Mes parents étaient hébreux, originaires de la ville de Tarse, et même s'ils vivaient dans une ville de langue grecque, ils sont restés attachés à la langue hébraïque et aux coutumes hébraïques. Et il a dit, j'ai persécuté l'Église, ces gens que je pensais avoir changé la tradition et la loi de Moïse. Je les ai persécutés jusqu'à la mort. Et il dit, regardez, si l'on parle d'œuvres, j'ai toutes les raisons possibles. Il dit, si c'est cela qui donne accès au salut, alors j'y aurais eu accès, mais il dit, tout cela n'est qu'un tas d'ordures. Le salut est par la grâce au moyen de la foi, plus rien d'autre. Et il y a de nos jours des gens qui ont le même esprit. Ils ne disent peut-être pas qu'il faut la circoncision, mais ils disent, eh bien, cela dépend de votre façon de vous habiller, ou de votre alimentation, ou bien vous devez respecter telle forme précise de baptême d'eau, et vous devez le faire exactement de cette manière, ou vous devez faire telle chose. Et ils ajoutent quelque chose à l'œuvre de Christ. Ils y ajoutent de bonnes œuvres. Et Paul était en colère contre eux. Il a dit, écoutez, c'est faux. Et il les a qualifiés de mauvais ouvriers. Puis il dit ceci au verset 8 de Philippiens chapitre 3. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et remarquez qu'il parle du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Ce mot « connaissance » signifie littéralement une connaissance intime et personnelle. Il parle d'une relation personnelle. Puis, au verset 9, il dit, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi ou des bonnes œuvres, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Or, ce n'était pas simplement un espoir du genre. « J'espère être trouvé en lui, j'espère que lorsque Jésus reviendra ou lorsque je mourrai, je m'en sortirai. » Non, c'était tout simplement une expression de son humilité. Il serait trouvé en Christ sans se confier dans quoi que ce soit qu'il ait fait, sans se confier dans ses bonnes œuvres, sans se confier dans le fait d'avoir observé la loi ou d'avoir marché droit, mais en se confiant en Christ seul et dans la justice que Dieu donne. Notre propre justice repose sur ce que nous faisons ou ne faisons pas. Je veux dire, certaines personnes disent, « Eh bien moi, je ne regarde pas tel genre de film, je n'utilise pas tel genre de gros mots et je ne bois pas de caféine. » Au passage, j'ai ici une très bonne tasse de thé chaud. Mais certaines personnes disent, franchement, vous ne devriez pas boire de caféine, vous ne devriez pas mettre cela dans votre corps et cela, parce que je ne fais pas ces choses, je suis juste devant Dieu, et parce que je fais telle chose, je suis juste devant Dieu. Non, mon ami, c'est la foi en Jésus-Christ, la justice qui repose sur ce que je fais ou ne fais pas. C'est comme des habits souillés. Mais la justice que Dieu donne vient par la foi. Quand je place ma confiance en Jésus seul, je suis rendu juste par la justice de Christ. Le livre des Romains dit que nous avons reçu le don de la justice. Ce n'est pas par les œuvres. Lorsqu'une personne est sauvée, lorsqu'elle place sa confiance en Christ seul et non dans ses bonnes œuvres, lorsqu'elle place sa confiance dans son œuvre accomplie à la croix et dans sa résurrection, et qu'elle le confesse comme Seigneur, littéralement, son esprit est changé, le vrai vous est changé à l'intérieur. Vous êtes un être spirituel créé à l'image de Dieu. Moi aussi, en réalité, vous ne pouvez pas me voir maintenant, mais je suis ici à l'intérieur. Ceci est la maison dans laquelle j'habite. La mienne a reçu une peinture assez particulière. On m'a aspergé de taches de rousseur et je n'y peux rien. La maison dans laquelle j'habite n'a simplement pas reçu une peinture uniforme, mais je dois faire avec. Et je regarde maintenant par ces deux fenêtres vers la caméra, juste chez vous, là où vous vous trouvez. Mais en réalité, vous ne pouvez pas me voir. Je suis un être spirituel. Je suis un être éternel. Je passerai l'éternité quelque part. Vous aussi. Vous êtes un être éternel, mais cet être intérieur, ce Bayless qui vit à l'intérieur, est né de nouveau. Et j'ai été rendu juste par la justice de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, parlant de Jésus, dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » J'ai été rendu juste par la justice de Jésus. Je ne l'ai pas mérité par mes œuvres, c'est un cadeau que j'ai reçu, je suis juste devant Dieu. Et mon ami, si cela ne se produit pas, nous n'avons aucun accès à un Dieu saint. C'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes rendus justes devant Dieu. Et cela nous donne accès à un Dieu saint. Et laissez-moi simplement dire ceci. Je crois aux bonnes œuvres. Et je crois qu'il faut s'abstenir des choses mauvaises et pécheresses, mais pas comme moyen de salut. C'est le fruit du salut. Ce n'est pas la racine du salut. Je crois aux bonnes œuvres, et ma nouvelle nature me pousse à accomplir ces bonnes œuvres, et la vie de Christ en moi me pousse à accomplir ces bonnes œuvres, à être bon, à m'abstenir des choses pécheresses et nuisibles, et à m'attacher à la parole de Dieu. Et plus je me nourris de la parole, plus je grandis dans la grâce, plus j'apprends ses voies en étudiant les Écritures, et plus je suis transformé à son image. Mais ces bonnes œuvres ne m'ont pas rendu juste devant Dieu. J'ai été rendu juste devant Dieu par la foi. Et maintenant, les bonnes œuvres en sont le fruit. Elles en sont une conséquence. Mais le but d'être rendu juste devant Dieu touche à la relation. Il dit à la fin du verset 9, « Je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » Verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Et je poursuivrai la lecture dans un instant. C'est donc la deuxième fois que Paul dit « afin que je le connaisse ». Et là encore, il parle d'une connaissance intime et personnelle de Dieu. La Bible Amplified Classic, l'une de nos traductions anglaises, a vraiment bien rendu cela. Elle le formule ainsi. Elle dit « car mon but déterminé est de le connaître afin de devenir progressivement plus profondément et plus intimement attaché à lui, en percevant, reconnaissant et comprenant les merveilles de sa personne avec toujours plus de force » et de clarté, afin de connaître Dieu et son Fils de plus en plus chaque jour. C'est pour cela que Dieu nous a créés. En Jean 17, 3, Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mon ami, voilà le but du salut. Il nous rend justes lorsque nous plaçons notre confiance en Christ. Il est mort pour nos péchés. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché, une substitution totale, de sorte que maintenant sa justice m'est donnée. Et grâce à cela, je peux entrer dans une relation avec lui et avec le Père. Paul a posé deux questions au Seigneur lorsqu'il l'a rencontré sur le chemin de Damas et qu'il a vécu son expérience de salut. La compréhension des réponses à ces deux questions a été progressive pour Paul. Et elles ont littéralement dominé sa vie à partir de ce jour-là. La première question, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et nous le retrouvons maintenant, des années et des années plus tard, en train de dire, « Oh, que je puisse le connaître, que je puisse le connaître plus intimement. Je veux me rapprocher de Jésus. Je veux me rapprocher du Père. Je veux mieux les connaître. Il a donc demandé sur le chemin de Damas, « Qui es-tu, Seigneur ?» Deuxième question, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et cette réponse a été progressive, alors qu'il suivait la volonté de Dieu pour sa vie. Puis il a dit, « Afin que je le connaisse, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, je veux le connaître. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Je veux en parler un instant. Il ne parle pas ici de la résurrection future, des justes et des injustes, où ceux qui sont morts en Christ verront leur corps ressuscité et seront réunis à leur nouveau corps glorifié. Il ne parle pas non plus de la résurrection des morts impies, ceux qui ont refusé le don du salut de Dieu et qui se tiendront devant le jugement du grand trône blanc, dont parle le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas de cela que Paul parle ici. Quand il dit « Je veux connaître la puissance de sa résurrection », écoutez ces versets. C'est Éphésiens, chapitre 1, verset 16. Il écrit à l'église d'Éphèse. Il dit au verset 16, « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Je me souviens d'avoir été dans une réunion. J'étais un chrétien assez récent et il y avait là un jeune évangéliste du Tennessee. Et c'était un bon prédicateur, même si je ne suis pas sûr qu'il ait eu des dents. Je n'ai jamais vu ses dents, mais il pouvait prêcher même sans dents. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas avoir jamais vu une telle puissance se manifester comme elle s'est manifestée dans le ministère de ce jeune homme du Tennessee. La foule n'était pas nombreuse, mais je veux dire, c'était presque comme si la puissance était palpable dans la pièce. Je me souviens qu'un père a amené son fils, qui était tombé, et s'était littéralement cassé le bras. Il avait le bras cassé. On voyait qu'il était cassé, il souffrait beaucoup. Mais avant de l'emmener à l'hôpital, avant de l'emmener chez le médecin, son père l'a conduit à la réunion. Il avait entendu parler de cette réunion et savait ce qui s'y passait. Il l'a donc amené et l'a fait venir devant. Et je vous assure, le bras de ce garçon faisait peine à voir. Il était manifestement cassé, tout le monde pouvait le voir. Et ce jeune évangéliste a eu un sourire incroyable sur le visage. Il s'est approché du garçon et a dit, « Écoute, nous allons prier. » Il lui a saisi le poignet et a dit, « Je veux que tout le monde compte jusqu'à trois. » Nous avons tous fait un, deux. Quand nous sommes arrivés à deux, il a tiré brusquement son bras en l'air et a dit, « Au nom de Jésus !» Son bras s'est instantanément et complètement ressoudé et il a été guéri devant tout le monde. C'était bouleversant. C'était un moment électrique. Eh bien, mon ami, c'est le résultat de la puissance de résurrection de Jésus qui coulait ce jour-là à travers ce jeune évangéliste édenté. Et cette puissance de résurrection apporte la guérison, et elle fait bien plus encore. Et Paul dit, « Je veux le connaître intimement et personnellement d'une manière plus profonde, ainsi que la puissance de sa résurrection. » Or, ces deux choses sont liées. J'aimerais que vous gardiez bien cette pensée en tête. Donc, pour voir cette puissance de résurrection se manifester, nous devons d'abord coopérer avec lui. Il dit dans ce verset, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Nous ne pouvons pas fuir lorsque la persécution arrive. Jésus a dit, « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et lorsque la persécution vient à cause de l'Évangile, nous ne pouvons pas flancher, nous replier sur nous-mêmes, avoir honte de lui et de ses paroles. Nous devons tenir fermement pour Christ et adopter une position sans compromis quand il s'agit de la vérité de sa parole et de qui est Jésus, même si cela peut provoquer la persécution. C'est important. Il dit « en devenant conforme à lui dans sa mort ». Jésus est mort pour détruire la puissance du péché. Ainsi, lorsque je soumets les désirs de ma chair à l'Esprit et à sa parole, et que je refuse le péché, je deviens conforme à lui dans sa mort. C'est pour cela que Jésus est mort. Et il poursuit ici, et c'est vraiment très fascinant. Ce que je viens de partager, lorsque nous coopérons de cette manière, est essentiel pour faire l'expérience de sa puissance. Si j'ai honte de lui, si je recule devant la vérité de sa parole, si je ne tiens pas fermement pour Christ avec une attitude sans honte, je ne ferai jamais l'expérience de sa puissance dans ma vie. Je dois tenir fermement pour Christ avec courage. Vous devez tenir fermement pour Christ avec courage. Il est important que nous coopérions de cette manière. Puis il dit ceci au verset 11, « Pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts, je veux vous parler de cela. » C'est un verset de l'Écriture très intéressant. Paul ne dit pas « j'espère avoir part à la résurrection physique ». En grec, il dit « afin que je parvienne à la résurrection d'entre les morts ». C'est la seule fois où cette expression est utilisée dans tout le Nouveau Testament. C'est en réalité un verset très difficile à comprendre et les spécialistes de la Bible ont travaillé sur ce verset pendant des siècles. Je crois qu'il parle de faire l'expérience dans cette vie de l'influence et de la puissance de l'Esprit à un niveau accéléré ou élevé. Il dit « afin que je puisse faire l'expérience de cette résurrection qui fait sortir d'entre les morts ». Là encore, la Bible Amplified classique a bien rendu cela dans sa traduction. En creusant la langue originale, elle le formule ainsi. « Afin que, si possible, je parvienne à cette résurrection spirituelle et morale qui m'élève, d'entre les morts, même pendant que je suis encore dans le corps », il parle donc de faire l'expérience dans cette vie de cette puissance de résurrection d'une manière accélérée ou élevée. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de débats sur ce que Paul voulait dire, mais il semble indiquer un niveau de pureté, de puissance et de sanctification en Dieu qui est disponible dans cette vie. Et écoutez-moi bien, cela ne s'obtient pas par nos bonnes œuvres, mais en nous approchant de Jésus. C'est pourquoi il a dit « afin que je le connaisse ». Je tiendrai ferme face à la persécution. Je deviendrai conforme à lui dans sa mort. Je ferai taire la chair et je dirai non au péché par son esprit qui est en moi. Mais ce n'est pas par mes bonnes œuvres. Plus que toute autre chose, c'est en m'approchant de lui, en ayant une relation intime avec Jésus. Et les mots suivants de Paul peuvent vous encourager beaucoup. C'est mon cas. Franchement, je les trouve extrêmement encourageants. Donc, encore une fois, il parle de cette vie pendant que nous servons Dieu ici, dans ce monde déchu, avant le moment où nous déposerons ces corps dans la mort, avant le moment où Jésus-Christ reviendra et où nous serons élevés pour le rencontrer dans les airs. Quelle que soit celle de ces choses qui arrivera en premier, avant cela, nous pouvons expérimenter un niveau de sa puissance qui produit la pureté, apporte la guérison et manifeste l'influence de l'Esprit d'une manière inhabituelle. Regardez maintenant ce qu'il dit ensuite. Au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Paul dit « Eh, je n'y suis pas encore. Je ne suis pas là où je veux être. Je ne suis plus là où j'étais, mais je ne suis pas encore là où je veux être. » Il y a encore de la place pour une croissance. Paul parle ici de ce niveau de rencontre et d'expérience qui est disponible. Et cela a à voir avec le fait d'être prêt à dire non au péché et à tenir ferme dans la persécution. Mais plus que tout le reste, nous devons bien comprendre ceci. plus que tout le reste, cela a à voir avec le fait de nous approcher de Jésus. Plus je m'approche de lui, plus ma relation avec lui est intime et fraîche, et plus ces autres choses agissent dans ma vie. Ces autres choses sont en quelque sorte une conséquence de cette relation personnelle que j'ai avec le Seigneur. Puis il dit, pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Et cela nous ramène à la deuxième question que Paul a posée sur le chemin de Damas. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand Christ s'est emparé de ma vie, il s'est emparé de moi pour une raison, pour un but. Quand la vie de Paul a été saisie par le Seigneur Jésus-Christ, c'était pour une raison. Et Paul a dit, « Je veux m'emparer du but pour lequel il s'est emparé de moi. » Et il y a différentes étapes et différentes saisons dans notre vie. En ce moment, la saison que j'essaie de saisir, c'est, « D'accord, Dieu, c'est une nouvelle saison. » Nous avons vécu une transition dans notre Église. Je prêche encore 25% du temps, mais je ne gère plus le quotidien. Je ne porte plus la vision. Notre fils aîné, Harrison, est le pasteur principal. C'est une nouvelle saison pour moi. Alors Seigneur, quel est le but que j'ai en toi pour ta gloire et pour ton nom dans cette saison? Une partie de cela concerne ce que je suis en train de faire maintenant, enregistrer ces enseignements. Je suis aussi très, très occupé à écrire. Chaque jour, je m'assieds à la table de ma cuisine et j'écris. J'ai terminé un autre livre il y a quelques jours. D'accord, je fais de mon mieux pour m'emparer de ce pourquoi Jésus-Christ s'est emparé de moi. Et vous devez saisir cette saison. Dans cette saison, pourquoi Christ s'est-il emparé de vous? Devez-vous vendre tout ce que vous possédez, rejoindre une organisation missionnaire et partir sur le champ missionnaire? Peut-être. Priez et cherchez Dieu. Peut-être s'agit-il d'utiliser votre sens des affaires pour gagner beaucoup d'argent afin de soutenir l'œuvre du royaume. Peut-être est-ce cela que Dieu vous appelle à faire maintenant. Utilisez la majeure partie de vos revenus et cette intuition divine qu'il vous a donnée pour les affaires afin de réunir beaucoup de ressources pour soutenir votre église locale et soutenir l'œuvre missionnaire. Ou peut-être est-ce servir et utiliser votre influence comme enseignant dans le système scolaire public. Quoi qu'ils vous disent, je veux simplement dire ceci, faites-le. Paul a dit, « Regardez, je n'y suis pas encore. » Il l'a dit au verset 12, au verset 13, il dit, « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » D'accord, je n'y suis pas encore, mais je lâche le passé et je me porte vers l'avant. Je pense que certains d'entre nous doivent lâcher ce qui est derrière. Nous devons lâcher les mauvaises choses qui sont derrière. Certains d'entre vous me regardent en ce moment et sont coincés dans le passé. Vous avez connu un grand échec dans le passé, d'accord. Peut-être avez-vous été infidèle à votre conjoint et votre mariage s'est brisé, cela a affecté vos enfants. Vous avez brisé le cœur de votre mari. Vous avez brisé le cœur de votre femme. Vous avez perdu des amis. Vous avez eu honte. Mais vous vous êtes repenti. Et le sang de Jésus purifie de tout péché. Je sais que je parle à quelqu'un en ce moment. D'accord, réparez ce que vous pouvez réparer, mais vous devez lâcher cela et ne pas laisser cela devenir une prison qui vous retient dans votre échec passé. Vous devez oublier ce qui est derrière. Dieu a encore de bonnes choses pour vous devant. Votre vie n'est pas terminée. Dieu peut encore vous utiliser. Oui, vous avez peut-être manqué certaines choses, vous avez peut-être gâché certaines choses, et peut-être qu'elles ne peuvent pas être réparées, mais vous pouvez continuer d'avancer. Pour certaines personnes, cela signifie oublier les bonnes choses qui sont derrière. Certaines personnes restent attachées à une bonne chose du passé. Nous devons lâcher ce qui est derrière et nous porter vers l'avant. Paul dit, « Je cours vers le but pour le prix qui m'attend. » D'accord? C'est voir Jésus face à face. C'est le ciel. Et au bout du compte, la récompense, c'est lui. Comme Dieu l'a dit à Abraham, « Regarde, je suis ta très grande récompense. » Combien cela est vrai pour nous? Le Seigneur lui-même est notre très grande récompense. Et il dit, je cours, je tends vers ou je cours vers le but. Cela signifie littéralement que je cours dans les lignes. Je fais tous mes efforts en courant dans les lignes. Je m'applique à la course qui a été tracée pour moi. Maintenant, ma course, votre course, consiste à servir le Seigneur Jésus. Mais la vérité, c'est que ma course peut être quelque peu différente de la vôtre. La mienne peut consister à écrire des livres, à partager l'évangile sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc., etc. Et il peut y avoir d'autres choses auxquelles je suis appelé. La vôtre peut consister à travailler avec des enfants ou à soutenir financièrement votre église locale ou à servir d'une autre manière. Votre course peut être différente de la mienne, je ne vais pas vous critiquer. Ne me critiquez pas. Ne critiquez pas quelqu'un d'autre parce que sa course a un aspect un peu différent. Vous devez simplement courir dans les lignes que le Seigneur a tracées pour vous. Découvrez ce qu'il veut que vous fassiez et faites-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Je dois tendre vers le but, faire tous mes efforts, m'accrocher et le faire avec toute mon énergie. Mon ami, si vous êtes tombé, je veux simplement vous encourager. Relevez-vous et recommencez à courir. Dieu n'en a pas fini avec vous. Malheureusement, mon temps est écoulé, mais le Seigneur est là avec vous et je prie qu'il vous bénisse abondamment. À bientôt.
Chaque semaine, de nombreuses personnes nous contactent parce qu'elles ont été interpellées par les émissions, parce qu'elles ont des questions ou parce qu'elles souhaitent une prière. Nous en sommes très heureux. Pour pouvoir produire d'autres émissions, nous avons besoin de partenaires comme vous à nos côtés. Si vous aussi vous avez été encouragé par nos émissions, vous pourriez envisager de nous soutenir de manière ponctuelle ou régulière. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. Vous trouverez toutes les informations complémentaires et la possibilité de faire un don directement en ligne sur bayless-conley.fr/don.
Souhaitez-vous relire la diffusion, tranquillement, à votre rythme ? Téléchargez dès maintenant le texte du message sur bayless-conley.fr/texte. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez que nous prions pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également nous contacter via notre site internet.